Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Plusieurs escadrons de gendarmerie ont quitté le territoire, mais il reste des forces de l'ordre en nombre suffisant pour assurer la sécurité. Le haut-commissaire était notre invité ce matin. Michel Barnier confirme que l'État va continuer à aider la Calédonie. Il l'a dit en clôture du congrès de maire pour répondre à Pascal Vittori. Les anciens élèves et personnels du collège Avila réunis à l'IFU. Le collège fête aujourd'hui ses 50 bougies. À l'étranger, les nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Le président russe annonce qu'il ripostera si l'Ukraine continue d'utiliser les missiles fournis par les pays occidentaux. Et puis dans la page sport, le point sur le Vendée Globe à la voile. Après le passage du poteau noir, c'est Thomas Ruyan qui mène la flotte vers le cap de Bonne-Espérance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Votre invité sera aujourd'hui Victor Tutu-Gourault.
Oui, le président de l'UPM qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous l'interrogerons sur le bilan du congrès de son parti qui était réuni les 9, 10 et 11 novembre à Poum, mais aussi bien sûr sur la situation du FLNKS et sur l'avenir de la coalition indépendantiste. Et puis nous ferons le point avec lui sur la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel et plus largement sur l'actualité politique calédonienne. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie de Victor Tutu-Gourault.
Et bien sûr, à 16h45, ce sera le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Au sommaire du Club Politique aujourd'hui, le projet des loyalistes d'une fédération territoriale et d'un parti qui ressemblerait au RPCR. Nous ferons le point aussi sur l'élection de Marie-Pierre Goyetch à la présidence du Parti Travailliste. C'était le week-end dernier. Et puis, nous nous interrogerons sur ce qu'il faut attendre du 55e congrès de l'Union Calédonienne qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Nous évoquerons également les nouvelles aides de l'État et les réactions que cela suscite, ainsi que le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la province des îles. Voilà pour le sommaire de ce Club Politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Il faut rester extrêmement prudent, c'est le commentaire du haut-commissaire interrogé sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, alors que l'on parle d'une diminution des effectifs des forces de l'ordre. Il reconnaît qu'il y a une normalisation de la situation, mais Saint-Louis reste, dit Louis Lefranc, un point de vigilance et il y a aussi des tensions dans plusieurs communes de la côte Est. Pour lui, il faut donc garder un volume de forces suffisant.
Aujourd'hui, nous avons encore 30 escadrons de gendarmerie mobile, ce qui est beaucoup. On va en perdre deux, donc on passera de 30 à 28 à la fin du mois de novembre. Et dans le courant du mois de décembre, on nous en prélèvera encore 4, donc on tombera à 24. J'espère qu'on en restera là. L'amélioration actuelle sur l'ensemble du territoire calédonien, il faut qu'elle se poursuive, parce que si elle ne se poursuit pas, je demanderai à ce qu'il n'y ait plus de retrait de force. J'ai calculé avec le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police nationale, compétent sur Nouméa. Pour le Grand Nouméa, là où il y a eu 98% des destructions, il faut 20 escadrons gendarmerie mobile, pas en dessous. Donc moi, c'est le plancher. Donc je l'ai fait savoir à l'autorité politique nationale que 20 escadrons, c'était le seuil en dessous duquel il ne fallait pas descendre, sinon on prenait des risques.
Le haut-commissaire rappelle qu'au mois de mai, lors du déclenchement de l'insurrection, il n'y avait que 6 escadrons pour faire face à 10 à 12 000 émeutiers. C'était extrêmement faible. Aujourd'hui, il y en a 24 et cela lui semble adapté.
Avec 24, on y arrive sans problème. Si on tombe à 20, nous saurons faire hein, sur le Grand Nouméa. À cela, il faut aussi penser aux militaires purs, aux forces armées de Nouvelle-Calédonie. Il y a 1600 militaires entre les militaires de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'armée de terre. On était monté à 2300. Donc ces 700 militaires qui venaient en renforcement des 1600 vont se retirer du territoire calédonien progressivement. Alors il s'agit de compagnies tournantes hein, qui venaient renforcer le RIMAP, le Régiment d'infanterie de marine du Pacifique. Et ces forces-là, plus les 1600 dont je viens de vous parler, ont été déployés pour assurer la sécurité du port, des deux aéroports, de points stratégiques ici en Nouvelle-Calédonie et notamment sur le Grand Nouméa. Et donc on recalibre les points sur lesquels on ne souhaite pas lever la garde en garantir jour et nuit la sécurité. Et il y a des secteurs sur lesquels je ne souhaite pas prendre de risques parce que ça engage beaucoup trop la vie quotidienne des Calédoniens.
Et à cela s'ajoute aussi la présence de CRS qui ont été envoyés à Nouméa pour faire face aux émeutes.
Les CRS n'avaient pas pour vocation d'être engagés en Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont été. C'était surtout des compagnies CRS de la région Île-de-France. Pour l'instant, je les ai. Ça fait partie des 30 forces qui sont déployées sur le terrain. Ceux qui ont la main sur les octrois ou les retraits de forces me feront savoir si, oui ou non, gardent ou pas les compagnies CRS. Les compagnies CRS, ce sont des unités qui ont plutôt vocation à intervenir en milieu urbain. Donc ici, sur Nouméa, ils ont démontré leur savoir-faire, ils sont très mobiles, très efficaces et ils sont d'ailleurs à pied d'œuvre toutes les nuits, comme ça a été le cas la nuit qui vient de s'écouler.
Maintenant que l'on s'achemine vers une normalisation, certains se demandent si un tel volume de forces de l'ordre est encore nécessaire. Pour le haut-commissaire, c'est le cas. Ces effectifs sont justifiés.
C'est justifié parce que la situation calédonienne demeure fragile. On ne peut pas se raconter d'histoire. Il y a encore les braises et les tensions existent. Et sur le Grand Nouméa, quand ça part, c'est une affaire d'heures. Donc, pour être en mesure de faire face, c'est pour ça que je vous donnais ce chiffre de 20 escadrons gendarmerie mobile pour faire face sur le Grand Nouméa. Évidemment, ce message, moi, je l'ai relayé. Alors, la situation métropolitaine, avec notamment en ce moment en particulier un mouvement concernant les agriculteurs, nécessite une réponse de fermeté. Donc, c'est la réponse qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Il a besoin, pour pouvoir y arriver, effectivement, d'avoir les forces nécessaires, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui explique d'ailleurs les retraits dont je viens de vous parler. Mais il faut un volume de force ici. C'est vrai qu'il paraît très très important, mais on est à 20 000 km. Quand une décision est prise de nous envoyer un escadron, mais il faut l'équiper. Un escadron, c'est deux avions, hein. Donc c'est les équipements d'un côté, les hommes de l'autre. Il faut que ça arrive en même temps. Donc il faut coordonner tout ça, donc il faut être dans une logique d'anticipation, et nous sommes, nous, sur cette posture.
Un volume de force de l'ordre qui se justifie, selon le haut-commissaire, par le climat général. Les risques demeurent et il faut rester très prudent, insiste Louis Lefranc.
Moi, je reste très prudent sur la situation calédonienne. Les braises sont là. Les émeutiers, là, qui étaient très très nombreux, sont toujours là. Ils peuvent être réactivés dans des délais extrêmement courts. La casse sur la Glo de Nouméa, on a vu ce que ça a produit. Ça a plongé des milliers de familles dans le malheur. Ça a un impact sur les collectivités calédoniennes, hein, qui voient leurs recettes fiscales chuter environ 30%. On voit aussi toutes les entreprises qui ont été démolies, et par système, celles qui ont été impactées et qui n'ont pas été démolies. Donc c'est tout un ensemble qui est fragilisé. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont commis ce qu'ils ont commis soient dans une logique de repentance. Je pense qu'ils sont prêts à recommencer. Donc, s'ils recommencent, ils auront en face d'eux les forces de l'ordre qu'on engagera avec vigueur et avec célérité. Donc, il me faut un volume de force significatif. Ce message a été parfaitement compris en haut lieu. Et donc, non, il n'est pas surdimensionné, il est à la bonne dimension.
Et concernant le matériel des forces de l'ordre, le haut-commissaire, qui était donc notre invité ce matin, dément une fausse information du Canard enchaîné, selon laquelle les Centaures seraient en rade en Nouvelle-Calédonie parce qu'ils ne sont pas tropicalisés.
Le Canard enchaîné est en général bien renseigné, mais là, sincèrement, ils sont trompés. On a 16 Centaures, il y en a un qui est en maintenance, et ces Centaures, ce n'est pas les conditions météo plus chaudes, certes, en ce moment, qui rendent inopérants ces matériels. C'est totalement faux. Ils fonctionnent parfaitement. Il y en a un qui a des petits problèmes de pièces qui ont été commandées et vont être changées, ces pièces. On en a 16 et on a beaucoup de chance d'avoir ces véhicules qui peuvent transporter un nombre de gendarmes significatif, très supérieur à celui des VBRG. Il est blindé et il permet de pénétrer dans les milieux hostiles, voire très très hostiles. Je les ai expérimentés avec le procureur de la République et croyez-moi, ils fonctionnent tous.
Nous avons enfin interrogé le haut-commissaire sur le maintien de couvre-feu et des diverses mesures administratives et il annonce un assouplissement d'ici la fin de l'année.
Elles n'ont pas vocation à être maintenues éternellement, c'est certain. Moi, je suis aussi très vigilant sur le volume de force dont je viens de vous parler pour être en mesure de faire appliquer correctement ces mesures administratives, qui sont des mesures très contraignantes. Je sais qu'il y a une très grande sensibilité sur le couvre-feu. Pour l'instant, il est maintenu, pour les raisons que je vous ai indiquées. Il faut rester quand même très prudent, il y en a d'autres. Donc, on regarde tout cela et on va essayer de faire en sorte que, je ne peux pas vous donner de date, mais que le Noël calédonien ne soit pas trop terni par ces mesures peut-être, vu par certains, trop draconienne.
Le haut-commissaire Louis Lefranc était donc notre invité ce matin à 7h30. Interview à réécouter ou à visionner sur notre site internet. Rappelons que les mesures d'ordres administratives, couvre-feu ou vente d'alcool, par exemple, restent pour l'instant en vigueur jusqu'à lundi inclus. Le haut-commissariat communiquera donc en début de semaine prochaine sur les éventuelles évolutions. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette interview, donc, qui est à retrouver sur notre site internet.
À Radio Rythme Bleu, 11h39.
Le congrès des maires s'est refermé porte de Versailles à Paris. L'Association des maires de France et son président David Lisnard ont permis à Pascal Vittori de prendre la parole en clôture de cet événement en présence du Premier ministre Michel Barnier afin d'alerter sur la situation des municipalités du territoire, Nicolas Legrand.
Oui, Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, s'est exprimé pendant près de 6 minutes à la tribune et il a débuté son propos par un état des lieux de la situation.
La Nouvelle-Calédonie a malheureusement renoué avec les heures sombres de son histoire à la suite de l'insurrection d'une partie de la population en mai dernier. Je ne reviendrai pas sur les motivations politiques de cette mobilisation destructrice, si ce n'est pour vous dire qu'elle a des répercussions catastrophiques dans tous les domaines de la vie quotidienne de nos collectivités et de nos populations. Pour illustrer mon propos, je ne vous citerai que trois chiffres. Moins 20 à moins 30% de notre PIB. c'est la perte d'environ 2 milliards d'euros de richesses. Plus de 700 entreprises dégradées ou détruites depuis les nuits d'horreur du 13 et 14 mai 2024. C'est près de 30 000 personnes au chômage, dont 10 000 ont totalement perdu leur emploi. Moins 25 % de recettes de fonctionnement pour nos communes. Je laisse chacun de mes collègues maires de France transposer une perte de 25 % de recettes de fonctionnement dans leur budget communal.
Et d'après Pascal Vittori, le risque de placement sous tutelle des mairies est important. Il estime par ailleurs qu'une crise sociale et humanitaire se profile si les communes n'ont pas les moyens de venir en aide aux populations les plus fragiles. Pascal Vittori qui a interpellé le Premier ministre en lui indiquant que les maires du territoire étaient à sa disposition pour trouver des solutions et il a dégagé plusieurs pistes de réflexion.
Parallèlement aux dispositifs déjà déployés par l'État, mes collègues maires, mes équipes et moi-même avons identifié, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide du président Lisnard et de ses équipes, des dispositifs susceptibles de permettre à la nation de se tenir aux côtés des communes de Nouvelle-Calédonie. Un fonds de solidarité qui permettrait l'octroi de subventions exceptionnelles dès 2024, une révision du seuil de l'assiette de répartition du fonds intercommunal de péréquation dédié au fonctionnement des communes afin de garantir, comme l'article 49 de la loi organique le stipule, le maintien des dotations, un mécanisme de prélèvement sur recettes visant à compenser les pertes de recettes de nos communes. Enfin, une loi d'orientation spécifique à la Nouvelle-Calédonie permettrait de consolider à long terme les budgets communaux dans une logique pluriannuelle. Cette démarche s'inscrirait dans une politique de grands travaux initiée par le gouvernement local.
Michel Barnier a clôturé cet événement et a répondu à Pascal Vittori au cours de son discours. Le Premier ministre a réservé ses premiers mots aux maires d'outre-mer présents dans la salle et en particulier à ceux de Nouvelle-Calédonie.
Je veux saluer ici en particulier votre maire de Nouvelle-Calédonie mais aussi des autres départements et territoires. Je veux leur dire avec François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer qui est aussi ici, que nous sommes attentifs à leurs difficultés et en particulier en Nouvelle-Calédonie dans une période extrêmement grave après des troubles très violents où 25% de l'économie du territoire a été détruite. Voilà une des situations que je trouve. L'aide de l'État, notamment financière, mais pas seulement financière, technique, en termes d'ingénierie économique, leur sera évidemment destinée dans le cadre d'une convention qui sera conclue prochainement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont j'ai reçu le président, M. Mapou, il y a quelques jours. Et ce paiement, je le dis à Pascal Vittori, le paiement interviendra pour ce qui les concerne directement avant la fin de l'année.
Le congrès des maires s'est donc refermé après 4 jours de travaux, porte de Versailles à Paris. Des propos recueillis par notre correspondant Xavier Robert.
À 11h43, c'est l'heure de tourner une première page de publicité dans ce journal. On évoque l'actualité politique dans un instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Découvrez l'authenticité de la pizza artisanale cuite au feu de bois chez votre pizzeria Lantanas Pizza au Vallon d'Or, ouvert du mercredi au lundi de 17h30 à 20h30 et 21h les week-ends. Commandez vite au 41 54 69. Facebook Lantanas Pizza.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens majeurs à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2024.
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales générales et provinciales, effectuez vos démarches dès maintenant.
Et si vous avez déménagé, signalez ce changement à l'hôtel de ville de Nouméa ou dans la mairie de votre nouvelle commune.
Attention, votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. C'est pourquoi, que ce soit pour votre inscription ou pour votre maintien sur les listes, il est important de notifier tout changement.
Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
N'attendez plus, ces démarches sont nécessaires si vous souhaitez participer au scrutin organisé en 2025.
Ceci est un message de la ville de Nouméa.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité politique et le Rassemblement travaillent sur l'urgence économique et l'avenir institutionnel. Ce matin, le groupe Rassemblement a fait un point sur les derniers sujets d'actualité, Nicolas.
Oui, à commencer par l'urgence économique de la Nouvelle-Calédonie. Le Rassemblement s'oppose au nouveau prêt garanti par l'État qui monterait l'enveloppe totale à 119 milliards de francs. Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement, se rendra à Paris la semaine prochaine avec une délégation du Congrès pour défendre un plan triennal de 102 milliards de francs, à savoir dans le détail un fonds de stabilisation de 700 millions d'euros, c'est-à-dire 83,5 milliards jusqu'en 2025 pour soutenir l'économie locale. Il s'agit du fonctionnement. Et puis à côté de cela, une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 19 milliards de francs, pour démarrer la reconstruction des infrastructures.
Nous serions, si nous en prêtions ces 120 milliards CFP, à 650% de taux d'endettement, alors que quand vous allez voir votre banquier, il vous refuse le prêt si vous êtes à plus de 35% d'endettement. Donc clairement, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, dans la situation de possible effondrement complet de notre territoire, l'État doit nous accompagner par des subventions qui sont véritablement vitales pour sauver la Nouvelle-Calédonie. C'est bien sûr ce que nous allons défendre à Paris avec tous les groupes pour demander ces subventions. Nous savons que l'État indique que nous sommes que 270 000 habitants et que ces sommes sont colossales par rapport à 270 000 habitants. Mais encore une fois, il s'agit là de l'effondrement total d'un territoire français du Pacifique. L'État a donc la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens. Et beaucoup d'entre eux ont subi les émeutes et les résultats, les conséquences de ces émeutes, sans forcément être protégés. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons une solidarité massive et importante à l'État aujourd'hui et qui doit arriver très rapidement si nous ne voulons pas que la Nouvelle-Calédonie sombre.
Et ce matin, le Rassemblement est aussi revenu sur la proposition du groupe Les Loyalistes de travailler sur un fédéralisme territorial. Alcide Ponga, le président du Rassemblement, est satisfait que les idées du sénateur Dick Ukéwe, exprimées en 1985 dans un discours au Sénat et travaillées ensuite par l'ancien sénateur Pierre Frogier, soient reprises.
Ça prouve quelque part que ces anciens-là avaient une vision, et une vision portée par des convictions qui sont dans le parti du Rassemblement, quoi. Donc avec l'équipe aujourd'hui, on est toujours sur ces convictions-là, avec d'abord le premier point que le Rassemblement a toujours défendu, pour des raisons non seulement de conviction, mais surtout pour des raisons de bien-être aussi de l'ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie, c'est de rester dans le giron français. On sort de la période de l'accord de Nouméa où il y a eu des référendums qui ont été tenus. Et donc notre rôle et notre mission aujourd'hui, c'est de respecter non seulement les convictions qui sont les nôtres, mais surtout cette expression démocratique de ces dernières années pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse dans laquelle on est actuellement.
Le Rassemblement évoque, je cite, une réalité incontestable. Il y a trois provinces, trois visions et trois dynamiques. Une vision que le Rassemblement portera d'ailleurs avec les loyalistes. Pour autant, l'heure n'est pas au parti unique pour Virginie Ruffnacq, chef du groupe Rassemblement, qui estime que ce n'est pas le sujet.
Sur la question de fusion des partis, je pense que ça n'est pas finalement véritablement un sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que nous considérons que ce qui est crucial aujourd'hui, c'est l'unité des partisans de la France. Notre capacité, au-delà des mouvements politiques, puisqu'il y a eu des mouvements qui ont été créés par nos collègues ces dernières années, aujourd'hui, eux, ils veulent sans doute fusionner pour, de leur côté, n'en faire qu'un seul. C'est l'importance de discuter de manière très unie sur notamment l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Le Rassemblement est totalement uni en travail, en discussion avec les loyalistes pour arriver au niveau des partisans de la France à défendre des choses communes dans le cadre des discussions avec les indépendantistes et l'État. Et je crois que la vraie unité, elle est là, au-delà des structures administratives qui sont créées, défaites ou reconstruites.
Et pour cela, le Rassemblement rappelle que les accords passés ont reposé sur des projets structurants. Il souhaite donc profiter de l'opportunité pour repenser le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie et notamment la mise en place d'un outil de production électrique ambitieux, décarboné et à bas coût. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, dans la perspective des discussions sur l'avenir, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à l'union des partisans de la France au sein d'un seul parti qui ressemblerait à ce qu'était le RPCR. Ils sont 8% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Voici notre question du jour. L'Union calédonienne qui réunit ce week-end son 55e congrès doit-elle, selon vous, changer de président? Si vous pensez que l'UC doit changer de président, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle doit reconduire Daniel Goa, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. L'Union calédonienne doit donc ouvrir ce 55e congrès tout à l'heure à la tribu de Mia à Canala. Le discours d'ouverture du président Daniel Goa est prévu à 13h. Les travaux se dérouleront ensuite à huis clos jusqu'à dimanche, le jour où les délégués procéderont donc à l'élection du bureau et du président de l'Union calédonienne. L'actualité à Calédonie nous emmène maintenant à Lifou, où le collège Avila souffle aujourd'hui sa 50e bougie. Un demi-siècle d'existence qui aura vu passer de nombreux élèves et personnels qui sont tous et toujours fortement attachés à ce lieu rempli de souvenirs et qui a subi beaucoup de changements au fil des ans, explique Elisabeth Siapo, l'actuelle directrice du collège.
50 ans, c'est beaucoup, c'est un jubilé d'or, ça signifie énormément, et surtout, nous avons de la reconnaissance et aussi beaucoup de fierté. Au départ, les filles étaient séparées des garçons, il y avait un établissement à l'autre bout du Fou pour les filles et un autre pour les garçons. Et ça, c'était au tout début, parce qu'il faut quand même noter que l'établissement de Avila est un établissement centenaire, donc la différence réside déjà dans la façon de pratiquer et tout le reste après, parce qu'au tout début aussi, les gens qui étaient là, ils n'étaient pas rémunérés. Donc nous sommes bien un établissement des années 2024. Tout ne va pas bien, d'autant plus que nous venons de traverser et nous traversons encore des périodes difficiles. Mais nous comptons bien continuer à vivre.
Et pour célébrer cet anniversaire, de nombreuses activités sont organisées jusqu'à 15h cet après-midi. Cette journée est également l'occasion de refermer la semaine des langues qui se déroulait au collège depuis lundi. 29 associations d'UMBN ont été récompensées pour leur projet hier soir lors d'une cérémonie qui a permis d'acter le partenariat entre les acteurs de la société civile et les entreprises privées, Charlotte Coulson.
4 548 000 francs de dons au total. 29 associations se sont vues remettre des chèques de quelques centaines de milliers de francs chacune. Car malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées cette année, 16 entreprises ont tenu à maintenir le lien avec le tissu associatif de la ville. Parmi elles, la société Câble Télécom NC qui renouvelle le partenariat cette année, de même que la SODIM et la Société Calédonienne de Bâtiments. Pour Bluescope, il s'agit d'une première qu'ils espèrent bien renouveler les années suivantes. On écoute leur témoignage.
Bluescope avait une volonté de soutenir en fait le monde associatif pour cette année. On sait que c'est particulièrement difficile pour l'ensemble de l'économie et différents acteurs, mais le monde associatif, c'est quelque chose d'important qui permet en fait de canaliser toute notre jeunesse. Donc ouais, c'était important.
Pour nous, c'est très important. Malgré les difficultés que rencontrent nos entreprises, et notamment du BTP, on se doit de maintenir le lien social et donc le milieu associatif.
Je renouvelle, c'est la deuxième année que je participe à cette très belle initiative de la ville de Dembéa. J'appelle ça, moi, un peu l'économie circulaire. C'est-à-dire que si chaque entreprise donne un petit peu, etc., on crée une économie, on crée une vie. On est moins dépendant des fonds publics. On apporte aussi notre complément à la vie de la cité, quoi.
Un partenariat initié par la mairie de Dembéa il y a 9 ans déjà, en 2015, et qui fête donc ses 10 ans l'année prochaine.
Et puis c'était hier soir la deuxième édition de la finale du concours d'éloquence René Rotter qui s'est déroulée dans l'hémicycle du Congrès. 5 jeunes lycéennes se sont affrontées en joute ou en solo autour du thème du corps. Mathilde Danis a remporté le prix du solo. Elle a choisi de performer sur le sujet « On est condamné à vieillir et il n'y a rien à faire contre ça », tiré de l'étrange histoire de Benjamin Button.
Je suis extrêmement reconnaissante du choix des jurés et je pense aussi que tous les solos de mes autres camarades étaient absolument incroyables, notamment celui de Enola, le coup de cœur du jury. Très satisfaite d'avoir pu être le choix de ce jury aujourd'hui. Donc le thème de l'éloquence de ce soir, c'était sur le thème du corps et moi j'ai participé à un solo ainsi qu'à une joute et je me basais principalement sur la vieillesse et aussi sur la véracité des propos du corps et s'il nous mentait ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans tout ça et que c'est très difficile de répondre à ces questions. Je suis tellement contente d'avoir participé parce que j'ai appris beaucoup sur moi et sur mes camarades d'éloquence et que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses.
Le prix de la meilleure joute a été remporté par Juliette Babet sur le thème « Je veux juste être parfaite » tiré du film « Black Swan », un concours qui était présidé par Velma Falaio, la présidente du Congrès et qui s'est tenue en présence de René Reuter, la première bâtonnière calédonienne qui donne donc son nom à ce concours. L'actualité dans la région nous emmène ce midi au Vanuatu. Le pays est entré lundi dans une nouvelle phase d'incertitude politique puisque le président a prononcé la dissolution du Parlement. Il faut donc organiser de nouvelles élections avec une classe politique plus fractionnée que jamais et une population qui s'interroge sur l'instabilité politique chronique. Jean-Pierre Zajac.
Le ministre sortant de l'Intérieur, Andrew Napoat, a indiqué que les élections générales anticipées destiné à renouveler les 52 sièges du Parlement de Vanuatu, auront probablement lieu courant janvier. Selon toute vraisemblance, plusieurs anciens premiers ministres vont se remettre en lice, à savoir Bob Lahman, Ismail Kansakao, Sato Kilman et le chef du gouvernement sortant, Charlo Salwai. D'autres candidatures sont à prévoir, à commencer par celle de Ralph Reganvanu. Les habitants du Vanuatu, quant à eux, sont loin d'être satisfaits au regard d'une instabilité politique qui semble perdurer. Leur grogne est désormais palpable et ils en viennent à se demander pour combien de temps la prochaine équipe dirigeante se maintiendra au pouvoir. à Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité à l'étranger. L'Ukraine a utilisé des missiles fournis par les pays occidentaux. Vladimir Poutine profère de nouvelles menaces.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Grande nouvelle! Votre showroom automobile Automotors à Magenta réouvre ses portes. Venez découvrir les tout derniers modèles des marques Shangan, DFM et Geely. Des offres exceptionnelles vous attendent. Rendez-vous dans votre showroom Automotors à Magenta en face de l'As de Trèfle. Nous sommes impatients de vous retrouver.
Hats, ouais, c'est moi. T'as conscience. Je sais, je suis chiant. Mais sérieux, t'as bu combien de bières ce soir? Tu crois vraiment que ça vaut le coup de risquer ta vie parce que t'as fait la fête et que t'es un peu fatigué? Et tes potes que tu ramènes, tu les respectes? Allez, laisse tes clés à quelqu'un qui a pas bu. Si tu conduis, c'est zéro alcool.
T'as raison. Moi, sur la route, c'est responsabilité, respect, humilité.
Ça roule.
Sécurité routière, vivre ensemble.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Haut-Commissariat.
Votre Auchan Kéferi fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gagne. Ce vendredi 22 novembre, on vous offre 10% de remise sur la boucherie avec la carte fidélité et la possibilité de remporter l'un de nos 2 caddies surprises d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec actualité dans l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Vladimir Poutine hausse le ton et son niveau de menace. Le président russe a pris la parole hier soir dans un discours télévisé décidé, semble-t-il, à la dernière minute. Ces derniers jours, l'Ukraine a utilisé des missiles longue portée fournis par les pays occidentaux pour frapper le territoire russe. L'année dernière, la Russie a de son côté utilisé un missile de moyenne portée sur l'Ukraine et Vladimir Poutine a mis en garde très clairement les pays soutiens de l'Ukraine.
La question de la poursuite de l'utilisation des armes de portée intermédiaire va dépendre des décisions des États-Unis et de leurs satellites. Nous considérons être dans notre droit d'utiliser nos armes contre des objectifs militaires, des pays qui permettent d'utiliser leurs armes contre notre pays, et en cas d'escalade, nous répondrons avec fermeté.
Une déclaration qui fait une nouvelle fois craindre une escalade dans ce conflit. Faut-il redouter le pire? La question a été posée sur CNews au ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu.
De toutes les évidences, le signal il est adressé s'il y a une déclaration médiatique. C'est évidemment fait pour inquiéter les opinions publiques. Je forme un vœu. J'aimerais en fait qu'on fasse quelque chose pour nous, Français. C'est qu'on arrête de passer d'un état extrême à l'autre. C'est-à-dire soit d'une énorme inquiétude en disant « Oh là là, c'est terrible, c'est la Troisième Guerre mondiale », a quasiment instantanément un autre statut qui peut parfois nous conduire à une forme de déni sur la réalité des menaces.
Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix, a ajouté Sébastien Lecornu. En métropole, Michel Barnier, on l'a vu tout à l'heure, a participé à la clôture du 106e congrès des maires. Il a donc évoqué le dossier calédonien après l'intervention de Pascal Vittori, dont nous avons parlé plus tôt dans ce journal. Le discours du Premier ministre était aussi très attendu par tous les maires, alors que le projet de loi de finances en discussion au Parlement prévoit des efforts budgétaires pour les collectivités à hauteur de 5 milliards d'euros. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pas de réelle concession budgétaire dans l'immédiat, mais sans avancer de chiffres précis, Michel Barnier laisse entendre qu'il veut alléger la barque pour les communes.
Ces amendements complémentaires feront évoluer le texte initial du gouvernement. Et je répète, je redis, comme je l'ai toujours dit, que ce budget n'était ni parfait ni définitif.
Le gouvernement devrait donc reprendre les propositions des sénateurs pour réduire l'effort demandé aux collectivités de 5 à 2 milliards d'euros. En opération séduction face aux maires, le Premier ministre a multiplié les promesses pour faciliter la vie des élus et redonner plus de liberté aux communes. Il souhaite par exemple mettre fin à l'inflation des normes et assouplir les règles sur l'artificialisation des sols. Néanmoins, Michel Barnier le reconnaît, ses promesses restent soumises à un aléa de taille.
Je ne sais pas le temps que j'ai devant moi. Ça dépend d'une éventuelle coalition des contraires à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ça se produira, j'y suis prêt. Je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français.
Incertitude évidemment liée aux menaces de censure brandies par la gauche et le Rassemblement national.
En bref, la métropole connaît une vague neigeuse précoce. 29 départements sont toujours en vigilance orange, neige et verglas. Des chutes de neige qui ont provoqué jusqu'à 400 km de bouchons sur les routes et ce matin encore 270 000 foyers restés privés d'électricité selon Enedis. Les agriculteurs, eux, relâchent un peu la pression sur le terrain. La coordination rurale va lever le blocage blocage du port de Bordeaux. Le syndicat estime avoir été entendu par le Premier ministre qui a affirmé qu'il y avait effectivement trop de normes européennes. La suite du mouvement dépendra de la signature ou non de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. La France fait tout pour ne pas le signer en l'état. À midi, la dernière pause de ce journal. Quelques mots de sport avant de retrouver ensuite le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Événement littéraire à l'Amirauté, le samedi 23 novembre de 9h à 16h. Le premier SAO, salon des auteurs en off. Débat histoire à 10h, débat média à 14h. Conteuse, atelier d'écriture, exposition de Stéphane Foucault, une vingtaine d'auteurs présents. Le samedi 23 novembre, viens rencontrer un auteur et croquer un bon livre. Venez nombreux au premier SAO.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
Réouverture de la Maison du Pain Calédonien, votre boulangerie du PK4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Venez vite redécouvrir votre boulangerie et retrouver nos pains fraîchement sortis du four dès 6h du lundi au samedi. Et retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook Le 4.
Complexe Le 4 au 186 rue Jacques Yekaoué. Faites vos courses autrement.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
On va d'abord parler voile, Léana Colombo. Le Vendée Globe se poursuit. Le Français Thomas Ruyant reprend la tête de la course. Il prend même la tête de la course, pardon, pour la première fois.
Oui, le skipper vulnérable a été le premier à sortir cette nuit pour nous du poteau noir, zone de convergence intertropicale connue pour sa météo instable qui a ralenti la flotte. Le nordiste a passé l'équateur en 11 jours, 8 minutes et 15 secondes. Thomas Ruyant, qui possède 12 000 d'écart avec Charlie Dalin de Massif Santé Prévoyance. Lors du dernier pointage, c'était le skipper britannique Sam Goodchild qui occupait la dernière place du podium. Prochaine grande étape de la course, le passage du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.
En golf, dernière chance pour le Calédonien Paul Barjon de conserver sa carte l'an prochain sur le prestigieux PGA Tour. Il joue le RSM Classic, dernier tournoi de la saison, et doit terminer dans les 3 premiers pour rester sur le circuit mondial américain. Ce n'est pas bien parti, puisqu'à l'issue du premier tour, Paul Barjon est 113e à 10 coups du leader. Midi 2, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est comme tous les vendredis, le magazine Transparence. Je vous rappelle que cette semaine, Elisabeth Noir reçoit le président de l'UPM, Victor Tutuoro.